Eh bien, nous allons relire, une fois encore, le début du chapitre 19 du premier livre des Rois. Nous ne nous lassons pas de lire et de relire les mêmes textes. 1 Roi 19, nous lirons jusqu'au verset 4, verset 1er à verset 4. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie et il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous avons donc considéré ce matin une seconde cause au découragement. Le regard qui s'appesantit sur la victoire d'hier. Méfions-nous des lendemains de victoire. Si nous avions disposé d'autant de temps que dans les autres rencontres, nous aurions creusé d'autres textes. Je vous en donne simplement les références. Libre à vous ensuite, si vous le désirez, de les creuser vous-même. Tout d'abord, vous avez 1 Roi 17, exactement dans le cadre de l'histoire d'Élie. 1 Roi 17, verset 17, après cette délivrance in extremis de cette femme, cette veuve à Sarepta, cette multiplication miraculeuse de la farine et de l'huile. Vous avez verset 17 cette expression, cette petite locution « après ces choses ». Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Un autre piège du calomniateur, de l'accusateur, qui susurre à l'oreille de cette veuve qui bénéficie du ministère d'Élie, des interventions continuelles de la grâce, du miracle de Dieu, cette multiplication continuelle, cet ennemi qui susurre « Mais tu vois, Dieu n'est pas avec toi, sinon ton fils ne serait pas tombé malade. » Ou encore « Tu as péché, sinon la mort ne serait pas entrée dans ta maison. » Après les grandes victoires, il y a aussi ces situations que Dieu permet, manifestement, Dieu a permis et contrôlé cette situation dramatique pour cette veuve, puisqu'elle a appris ensuite beaucoup de choses nouvelles dans sa relation avec Dieu. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois que quand on s'installe dans un temps de bénédiction toute particulière, où la grâce se multiplie et surabonde, on est tout surpris quand on a à nouveau un pépin après ça. Parce qu'on a l'impression que Dieu nous est redevable et qu'il n'y a plus de raison que sa grâce ne s'arrête pas. On pense que ça devrait continuer ad aeternam et tout accro dans cette grâce surabondante est considéré comme quelque chose de particulièrement désagréable. On a l'impression que Dieu nous laisse tomber. Et on tombe, effectivement, à cause de cela. Mais je ne veux pas creuser ici, mais vous pourrez le faire pour en tirer des conclusions pratiques pour chacune de nos vies. Ensuite, vous avez deux exemples très frappants dans le deuxième livre des Chroniques. Le premier, dans 2 Chroniques, chapitre 32, et au verset 1er. 2 Chroniques 32, verset 1er. Dans les chapitres précédents, il est question de cette réforme en profondeur durant le règne d'Ézéchias, qui fut un roi remarquable. Il y eut une réforme dans le domaine de l'administration du pays, aussi dans le domaine spirituel. une sorte de souffle de Dieu, de réveil particulier, et la conclusion d'ailleurs à toute cette période très féconde durant le règne d'Ézéchias nous est donnée dans le verset 20 du chapitre 31, 20-21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Quelle conclusion, hein? Et puis vous avez le démarrage du chapitre 32, la fameuse peau de banane, hein? Après ces choses, à nouveau, cette même petite locution, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Et je dirais qu'ici, il y a aussi le piège de la peur devant les assauts de l'ennemi. Cet ennemi qui, là, attaque de face. Il est tantôt perfide dans ses attaques par le biais, sournois, il est rusé, et puis tantôt, il attaque de manière frontale. Et il essaye de créer la peur par cet assaut particulièrement fort en vue de récupérer le terrain perdu. C'est ce qui fait dire à Ézéchias, qui ne perd pas ses moyens, verset 7, « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. » Voyez, au-delà de cette période de bénédiction particulièrement abondante, généreuse de Dieu, un assaut, très fort, de face, destiné à reconquérir le terrain perdu, mais cette belle attitude d'Ézéchias. Et quelques chapitres plus loin, au chapitre 35, un passage particulièrement douloureux, chapitre 35, dans l'exercice de la royauté chez Josias, un homme de réveil aussi, le dernier grand souverain qui cherchait vraiment de tout son cœur la face de Dieu, Josias, et il nous est dit au verset 20, après tout cela, il s'agit de toutes sortes d'événements, de réveil, de nettoyage, de souffle de Dieu, tout un ministère d'enseignement des Écritures qui va se développer, d'études bibliques systématiques dans les villes du pays, et puis cette célébration solennelle de la Pâque qui nous est racontée jusqu'au verset 19, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Puis au verset 20, après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre, et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, voyez le « mais », encore un de ces « mais » qui compte, mais négativement. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi car je suis gravement blessé. » Et puis il meurt. Il meurt. Un grand roi. Un homme de Dieu absolument remarquable qui travaillait de concert avec le prophète Jérémie à réveiller le peuple d'Israël. Il a été certainement d'ailleurs à l'origine du merveilleux ministère de Daniel. Daniel a certainement été formé à l'ombre, je dirais, de ces deux robes, n'est-ce pas, celle du roi Josias et celle du prophète Jérémie. Et puis, ici, un autre piège encore, le piège de l'orgueil. Le piège de l'orgueil présomptueux. L'ivresse liée au succès, à la bénédiction. Le refus d'écouter le conseil de Dieu, l'aveuglement de l'orgueil, l'illusion de l'invincibilité. Maintenant, je suis fort. Et regardez comment ce roi a terminé lamentablement. Un roi qui cherchait la face de Dieu et qui termine sur un champ de bataille atteint par une flèche d'un ennemi qui pourtant l'avait invité à se tenir à l'écart de la part de Dieu. Quelqu'un dit qu'il est plus difficile de supporter un succès qu'un échec. Et je le crois. À cause de cette tendance inhérente à notre propre nature depuis la chute, qui consiste à nous attribuer la gloire qui revient à Dieu seul. Nous avons vu hier la défaite d'Aï après la victoire de Jéricho. Même chose. Alors soyons particulièrement vigilants aux jours de grandes victoires et de bénédictions. Les déserts de la tentation succèdent au ciel ouvert du Jourdain. Après la montagne de la transfiguration, il y a la vallée des lunatiques. C'est une constante dans les Écritures. Et nous devons être sensibles à ces constantes. Et j'aimerais surtout, avant de passer à la troisième cause, souligner un point encore qui me semble important. Satan essaie toujours de profiter du phénomène de malaise qui dans nos vies fait partie du retour à l'ordinaire. Quand vous vivez sur la montagne, quand vous vous faites du bien dans le cadre d'une convention, d'une retraite, de moments particulièrement prenants, dans la prière communautaire, d'un effort, vous avez vu l'action de Dieu, sa main à l'œuvre, d'une délivrance particulièrement puissante dans votre situation de difficulté. Ensuite, vous vivez un petit peu mal dans votre peau.
Et terminé.
Il m'arrive fréquemment, à la fin d'une convention, d'une retraite, d'un camp, de dire aux croyants qui vont rentrer, méfiez-vous dans les jours qui viennent.
Un sommet dans sa vie.
Méfiez-vous du sentiment de platitude que vous allez connaître. Je pense à cet homme qui était interviewé, je crois que c'était hier matin, à la radio, qui était le leader de cette équipe, de ce rallye autour du monde, dont on a tant parlé à la télévision pendant des mois, jour après jour. Et cet homme, donc, qui a entraîné ses reporters en herbe pendant, je crois, 8 mois, dans une trentaine de pays du monde, racontait que lorsque lui-même avait déjà fait son premier tour du monde d'apprenti reporter, il avait été incapable de s'installer chez lui à la maison. Il ne supportait pas le retour à l'ordinaire au point qu'il était allé s'installer. Il avait pris une chambre d'hôtel en face de chez lui. Et il disait que rien n'est plus terrible quand vous avez vécu des moments particulièrement intenses de se retrouver dans le cours ordinaire de l'existence. Et ce qui est vrai dans le domaine de ceux qui sont en dehors de Christ est aussi vrai dans la vie de ceux qui sont en Christ. Il y a, après la montagne, ce sentiment de vide, ce sentiment de platitude, où tout apparaît fade, et où, en tant que croyant, on voudrait préserver le climat, l'ambiance de la montagne. On essaye même de reconstituer artificiellement cette bulle tout à fait spéciale, dans laquelle on a pu vivre un jour, une semaine, 2 mois. Et c'est extrêmement néfaste, parce que dans ces moments, l'ennemi en profite pour dire, mais tu vois, tu es en train de perdre la bénédiction de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ton christianisme, c'est du toc. L'ennemi accuse. Il en profite, il crée un sentiment de culpabilité qui est faux, parce qu'il est le menteur. Et j'aime à dire que ceci est particulièrement important pour le croyant qui a tendance à vivre sur ses sentiments. Plus nous vivons sur nos sentiments, sur nos impressions, sur nos émotions, plus nous nous en servons pour mesurer notre vie spirituelle, plus cela nous sert de baromètre spirituel, plus ces retours à la normale sont dangereux dans nos vies. Ne mesurons jamais la présence de Dieu et sa bénédiction à l'intensité de ce que nous avons ressenti. Il nous est dit, et je voudrais vous laisser ce verset, d'Ésaïe 26, versets 3 et 4. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire celui qui conduit ses sentiments. Il n'est pas dominé par le monde de ses sentiments, mais par l'esprit, dominant son propre esprit, il mène ses sentiments, il les conduit, il est ferme. Il les tient en reine. À celui-là, Ésaïe 26, versets 3 et 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, pourquoi ? Parce qu'il se confie en toi, c'est-à-dire qu'il ne se confie pas dans ses sentiments. Il est ferme avec eux. Il les domine. Il leur met un mort et une bride. Vous comprenez ? Il les domine. Il se confie en Dieu. Et comment est-ce qu'on se confie en Dieu, nous qui sommes en Christ ? Nous ne nous confions pas en un Dieu de notre imagination. Nous ne nous confions pas en un Dieu de l'expérience. Nous nous confions dans le Dieu des Écritures. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qui fait la stabilité de ma vie spirituelle, c'est le fait qu'au lieu d'avoir les expériences comme point de repère, j'ai les Écritures comme point de repère. Parce que le Dieu des Écritures ne change pas, sa parole reste vraie. Tout peut s'effacer, tout peut changer, la terre peut être bouleversée, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, attention. Attention à ceux et celles d'entre nous qui pourraient avoir cette tendance à mesurer l'intensité de leur spiritualité à ce qu'ils ressentent. Alors, quand on est bien dans la communion des croyants, quand on est bercé par le message de l'Évangile, quand on chante, quand notre cœur vibre, quand il fait chaud spirituellement, hein, on a l'impression d'être là déjà au troisième ciel. Hein. Et puis on se retrouve à la maison, et puis peu à peu, tout ça se refroidit comme le magma d'un volcan qui, après être tombé sur les pentes, peu à peu durcit de plus en plus en profondeur. Et alors cette petite voix du diable te susurrait, tu vois, tu es en train de perdre ta paix, tu perds ta joie, tu perds le sentiment de la présence de Dieu, tu as péché. Et alors on est dans le creux, et on est tout étonné dans les jours qui viennent, quand on se retrouve à la réunion de prière à plusieurs, de constater que telle personne qui semblait tellement haut sur la montagne, dans la convention passée, se retrouve complètement en bas. On se demande ce qui lui arrive. Elle a succombé au découragement parce qu'elle a bâti son christianisme sur ses expériences. Je ne vis pas de mes expériences d'hier. Je vis du Christ vivant par sa parole aujourd'hui. Que de croyants à l'heure actuelle courent après les expériences. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument continuellement reconstituer l'atmosphère de mon passé. Alors il faut chercher de nouvelles expériences pour retrouver ce cadre sécurisant spirituellement de ce moment où j'ai été tellement béni, n'est-ce pas ? Et alors, avec cela, on va au-devant de toutes sortes de contrefaçons, d'un christianisme terriblement déséquilibré. On ne mûrit pas, on ne grandit pas, on en reste au lait. Et on est sensible à toutes les déviations spirituelles possibles, pourvu que notre corde sentimentale puisse vibrer. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors si Dieu nous avait bénis pendant ce week-end, s'il nous avait rencontrés peut-être l'un ou l'autre d'une manière toute particulière, s'il nous avait dit certaines choses que nous pouvons dire et proclamer que, d'une manière toute nouvelle, Dieu nous a parlé. Demain, ne mesurons pas notre vie spirituelle à l'intensité du week-end. Disons demain, Seigneur, tu es le même aujourd'hui qu'hier. Peu importe ce que je ressens, j'accepte de descendre dans cette plaine assez fade en comparaison d'hier. Parce que je me confie en toi. Voilà une source de stabilité dans notre vie spirituelle. J'aimerais donc aborder la troisième cause pendant un moment. Et voilà pourquoi nous avons lu les premiers versets du chapitre 19, notamment le verset 4. Verset 4, dans lequel Élie, en pleine déprime, dit à l'Éternel, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » J'intitule la troisième cause, le refus de l'échec apparent. Le refus de l'échec apparent. Nous avons dit tout à l'heure qu'il est plus difficile d'assumer un succès qu'un échec. Cela ne veut pas dire qu'il soit facile d'accepter nos échecs. Ce verset 4 dit donc « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Nos paroles traduisent ce qui se passe au fond de nos cœurs. Quelle amère déception pour le prophète Élie. Amère déception puisqu'elle conduit d'ailleurs au dégoût de la vie. Il ne se supporte plus parce qu'il reçoit apparemment comme une nouvelle révélation sur sa propre personne. Mais quand il dit cela, « Je ne suis pas meilleur que mes pères », qu'est-ce que cela signifie entre autres? Cela signifie notamment qu'il a donc cru pendant un temps qu'il était meilleur que ses pères. Et c'est là tout le problème. Il le dit d'ailleurs au verset 10. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Verset 14 encore. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Il a pensé qu'il était plus fidèle, plus consacré, meilleur homme de prière, et qu'à cause de cela, il avait réussi là où ses pères avaient échoué. Non seulement il a peut-être vécu sur la victoire du chapitre 18, mais sa comparaison est remontée beaucoup plus loin en arrière. Il est allé examiner dans la vie de ses pères et il a constaté qu'il était mieux et qu'il avait droit à la croix de grand officier de la Légion d'honneur sur le plan spirituel. Et voilà que, à nouveau, il suffit de Jézabel, simplement Jézabel, pour que toutes ces illusions s'écroulent en un instant. Simplement une lettre. Une lettre qui pulvérise ce que j'appelle son équation favorite, grande fidélité égale succès assuré. Voilà que cette équation qu'il a cru se vérifier dans sa victoire au Carmel, en un instant s'avère complètement fausse. Tout est remis en question. Faut-il dire tout d'abord en première leçon que l'orgueil se glisse dans nos actes les plus spirituels? Je dirais que ça c'est une des choses qu'on apprend en grandissant avec le Seigneur. Quand on est petit enfant dans la foi, on pense que quand on prie, quand on lit la Bible, quand on témoigne, on est comme des anges. On a des ailes qui poussent dans le dos. On ne pense pas qu'il puisse se glisser dans nos actes spirituels des dimensions charnelles. Pourquoi? Parce que... comment serait-il possible qu'en lisant la Bible, on soit charnel? Comment se pourrait-il qu'en priant, on soit charnel? On fait quelque chose de spirituel. Et puis en avançant avec le Seigneur, on se rend compte que vraiment, cet orgueil, il colle à notre peau. Et vous êtes en train de parler sur l'humilité en évoquant son importance, et au moment même... Et il y a une petite voix intérieure qui dit, tu vois, hein, tu étais un gars humble. Comme celui qui avait de tels problèmes d'orgueil qu'il a décidé de se mettre à l'écart au fond de son jardin dans une cabane pour passer une journée dans le jeûne et la prière et supplier Dieu de le rendre humble. Puis le soir, il est entré, il a vu sa femme, il a dit, chérie, tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je viens de passer toute cette journée dans le jeûne et dans la prière pour supplier de me rendre humble. Et tu sais, j'ai vraiment reçu la conviction que maintenant je suis l'homme le plus humble de toute la terre. Comme cette femme qui, après un message sur l'humilité, a dit au prédicateur à la sortie, « Vous savez, pour moi, pas de problème, l'humilité, c'est mon fort. » L'orgueil se glisse dans nos actes les plus spirituels. Moi, je peux vous dire très honnêtement, je prends beaucoup de claques de la part de Dieu quand je suis en train de prêcher. Continuellement, Dieu me dit, hein, en bas, pas en haut. Et c'est ce qui fait qu'on tremble quand on prêche. Ne croyez pas qu'avec les années, il devienne facile de proclamer la parole de Dieu. J'ai le sentiment que je tremble beaucoup plus qu'il y a 10 ans en arrière. À cause de cette turpitude de notre cœur naturel, qui fait tout pour prendre quelque chose de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de dépendre de Dieu, pour être gardé. Et puis c'est tellement subtil. Justement parce que c'est dans le domaine spirituel. Et que nous aurions tendance à penser que le domaine spirituel, c'est un domaine réservé au Seigneur. Et donc que l'ennemi n'y a pas accès. Alors que c'est là que l'ennemi se complaît précisément lorsqu'on veut grandir spirituellement. Plus vous avez soif de grandir avec le Seigneur, plus l'ennemi va se déguiser pour vous atteindre dans le domaine spirituel. Ceci dit, peut-être, ou tout sûr, un premier enseignement de fond. Comment réagissons-nous dans la défaite et l'échec? Posons-nous la question personnellement. Comment est-ce que je réagis lorsque dans ma vie je connais un échec, une défaite? Est-ce que nous sommes catastrophés? Est-ce que nous sommes profondément irrités? Est-ce que nous sommes bouleversés au point de ne plus vouloir nous en relever? C'était le problème d'Élie. Est-ce que nos échecs nous affectent profondément? Est-ce qu'ils nous étonnent? Et essayons, au moment où nous nous posons la question cet après-midi, d'y répondre au fond de notre cœur très honnêtement. Eh bien, s'il en était ainsi, si vraiment nos échecs nous apparaissent comme des catastrophes, quels qu'ils soient, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous nous illusionnons encore sur nous-mêmes. Cela signifie que nous avons encore une trop bonne idée, une trop bonne image de nous-mêmes. Je ne veux pas dire que nous devions avoir une image affreuse de nous-mêmes. Mais nous devons quand même avoir une image claire, lucide, de ce qu'est notre nature propre, notre propre volonté, notre moi propre. Quelqu'un a écrit ceci et je l'ai beaucoup apprécié. Premièrement, ne vous appesantissez pas sur vous-même. Ne dites pas, mais comment est-ce possible que moi, j'ai pu me permettre cela? C'est ainsi que s'exprime un orgueilleux qui a une bonne opinion de lui-même. Humiliez-vous et levant les yeux vers le Seigneur, dites du fond du cœur, qu'aurait-on pu attendre d'autre de moi au Seigneur, faible que je suis et plein d'imperfections. Nous pouvons mesurer la profondeur de notre orgueil au temps que nous mettons à nous relever de nos péchés. Plus longtemps je reste courbé dans la poussière, écrasé par mes défaites, de plus haut je suis tombé. Vous savez, plus on tombe de haut en général, sauf exception, plus on s'assomme, hein? Alors si nous nous prenons pour des géants spirituels, quand nous tomberons de haut. Et nous risquons fort des comas, des traumatismes et du temps d'hôpital. Si nous tombons de notre juste mesure, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais pu attendre d'autre de ma propre personne? À ce moment-là, nous allons nous relever beaucoup plus vite. Cette fois, le juste tombe et il se relève, dit le livre des Proverbes 24, 16. Nos défaites ne doivent pas nous étonner ni nous faire désespérer. Elles nous rappellent notre vanité naturelle, notre impuissance charnelle, nos limitations, notre fragilité, notre besoin absolu de dépendre totalement de Dieu. Nos défaites et nos échecs doivent nous jeter aussitôt dans les bras de Dieu. Dans les bras de Dieu. Alors là, nous pouvons, les uns et les autres, personnellement, essayer de faire le point dans notre vie. Voir ce qu'il en est dans nos échecs. Est-ce que nous ruminons peut-être un échec dans notre vie depuis des semaines, voire des mois, et nous n'en sommes pas encore revenus d'avoir été capables de faire cela? Et finalement, nous nous apitoyons tellement sur nous-mêmes, à cause de cela, en disant au fond de nous-mêmes « je ne suis pas meilleur que mes pères », que nous ne réussissons même pas à nous relever. Nous ne voulons plus nous relever. Et ça peut durer pendant des mois, voire des années, dans la vie de certains croyants. Deuxième remarque. Ne surévaluons pas nos échecs. Élie a vu la situation plus sombre qu'elle n'était en réalité. Quelle était sa conclusion, une fois la lettre de Jézabel en main? Mon ministère ne vaut rien, puisque Jézabel relève la tête quand même. Dieu, heureusement, ne juge pas au succès visible, mais il juge à la fidélité éprouvée. À l'amour, aux motivations profondes qui inspirent nos actes. Et je pense à ces textes bouleversants de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Cette galerie de portraits des héros de la foi. Alors au verset 32, il nous est dit, « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Parag, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. » On a envie de chanter la Marseillaise après ça. Et puis ensuite, d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Où est-ce qu'il est le succès? Mais cela, ils existent aujourd'hui. Ils existent dans plus de la moitié des pays du monde. Ces croyants. Bon, on parle de ceux qui, par leur témoignage, voient des dizaines et des dizaines de personnes se convertir en prison. Mais il n'est pas question de ceux qui ne voient personne se convertir en prison. Pourtant, ils existent aussi. Et qui sont fidèles. Qui ne paraîtront jamais dans un seul bulletin de prière à l'Ouest. Vous n'aurez jamais leur photo sur votre bureau pour pouvoir prier. Et pourtant, peut-être que quand les tables seront dressées pour les noces de l'agneau, l'époux leur dira, « Toi, monte plus haut. » Et nous serons en bout de table. Nous qui avons peut-être connu le succès une église grandissante, quantité de personnes se tournant vers le Christ, l'église explosant, devant construire et construire encore et que sais-je. Dieu ne juge pas au succès visible, mais à la fidélité éprouvée. Bien sûr, cela ne doit pas être une excuse pour ne pas travailler. Mais le fruit de notre travail appartient à Dieu seul. Vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre champ, au niveau de vos arbres fruitiers. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est en fabriquer les fruits. Ce qui vous est demandé, c'est de tenir compte des lois de croissance et d'aider votre arbre. Creuser, mettre du fumier, vous connaissez ce que dit le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas faire plus. Il en est de même dans le domaine spirituel. Dieu ne juge pas au succès visible, mais à la fidélité éprouvée. Ensuite, le succès de l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos actes de piété en eux-mêmes. Parce qu'il semble que manifestement, Élie pensait que le succès dans l'œuvre de Dieu dépendait de ses actes de piété. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il y a eu un résultat. D'ailleurs, nous l'avons vu, ça s'est glissé dans sa prière du chapitre 18. Nous l'avons vu vendredi soir, versets 36 et suivants. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Puis alors, il y a ce changement. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Hein, on discerne dans sa prière qu'il y a un problème. Un problème. Le moi est trop présent. Le succès de l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos actes de piété en eux-mêmes, mais de la grâce de Dieu, qui veut bien se manifester dans nos actes imparfaits. Et une de nos plus grandes tendances consiste à nous confier dans nos actes spirituels. Dans notre vie de prière, dans notre témoignage, dans notre sanctification, dans notre humiliation, pour obtenir des résultats. Alors que c'est Jésus seul qui donne. Nos rapports sont trop avec Dieu, des rapports de marchandage. Au lieu d'être centrés sur la grâce de Dieu, nous sommes centrés sur nos efforts. La vertu n'est pas dans nos efforts, mais dans la toute suffisance de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas travailler. Mais il importe que je mette l'emphase là où la Bible met l'emphase. Ce n'est pas par la foi que je suis victorieux, mais c'est dans la mesure où ma foi s'appuie sur Jésus-Christ. Je peux me confier dans ma foi. Il arrive qu'on insiste tellement sur la foi qu'on éclipse complètement celui qui en est le chef, le guide, l'initiateur, le donateur est celui qui l'amène à la perfection. Alors on écrit une multitude de livres à l'heure actuelle qui sont centrés sur l'homme et ses actes spirituels au lieu d'être centrés sur Jésus-Christ. Faites ceci, priez de cette manière, ayez foi en toutes circonstances, louez continuellement, donnez généreusement. Et si vous faites ceci, la Bible dit qu'automatiquement, il va y avoir des résultats. C'est faux. Ce n'est pas parce que je prêche l'Évangile que Dieu bénit. Dieu bénit dans sa grâce. Et si Dieu en a envie, cet après-midi, j'aurai beau prêcher l'Évangile, il ne se passera rien au fond des cœurs. C'est un cadeau de la part de Dieu. Alors bien sûr, Dieu veut que je prêche l'Évangile. Et il veut que je le fasse selon les normes de la parole, remplissant certaines conditions. Mais Dieu n'est pas attaché à mes conditions pour bénir. Et c'est ce qui fait qu'il est arrivé parfois que Dieu agisse. Alors que je lui avais dit, Seigneur, tu sais, franchement, je n'ai pas du tout la forme pour prendre la parole. Je viens d'avoir des moments difficiles, je viens de chuter peut-être, d'avoir vraiment un moment où j'ai dû venir à la croix, demander pardon à quelqu'un, et je dis au Seigneur avant de prendre la parole, Seigneur, tu sais, je te demande vraiment de bénir d'une manière toute particulière à cause de ta grâce. De ta grâce. Et vous n'avez pas remarqué que pour que Dieu bénisse, il faut que très souvent, il nous amène au bout de nous-mêmes. Dans une situation d'impossibilité, de manière à ce que nous nous appuyons sur la grâce au lieu de nous appuyer sur nos propres efforts. Troisième remarque, toujours dans cette question de l'évaluation de nos échecs, le succès ou l'échec de l'œuvre de Dieu dans nos vies, quelle qu'elle soit, ne dépend pas entièrement de nous. Dieu poursuit un plan qui nous dépasse, qui nous déroute bien souvent complètement. Et j'aimerais dire ici que certains échecs apparents recèlent des victoires à long terme. Il faut parfois dans ma vie l'échec aujourd'hui, qui en réalité n'est qu'apparent, pour qu'à long terme, il y ait vraiment bénédiction, fruit, fécondité. Oh, j'en veux pour preuve ce conflit qui a éclaté entre Paul et Barnabas au sujet de l'évangéliste Marc, de la famille de Barnabas, que Paul ne voulait pas prendre avec lui dans une nouvelle tournée d'évangélisation. Le premier résultat, ça a été la constitution de deux équipes d'évangélisation. Échec, oui. Difficulté. Il y eut vraiment des aigreurs très sévères, nous dit le texte. Et pourtant, deux équipes d'évangélisation sont nées. Et puis alors, 15 ans plus tard, Marc, de timide qu'il était au départ, était devenu un homme de Dieu bien fondé, solide, fidèle soutien de l'apôtre Paul, bon coéquipier, alors que tous abandonnaient l'apôtre. À long terme du fruit. À long terme du fruit. D'ailleurs, on le remarque dans le chapitre 19 et dans les versets 15 à 18, où Dieu dévoile un petit morceau de son plan à Élie. Il lui dit, mais tu penses que tu es en échec, mais je tiens toujours la situation entre les mains. C'est tout de même pas cette petite Jézabel qui va bouleverser complètement mon plan pour l'avenir du peuple d'Israël. Je n'ai pas perdu les pédales et j'ai déjà prévu telle âme, telle personne, n'est-ce pas? Voilà ce qui va se passer. Dieu montre qu'en réalité, le succès ou l'échec de son œuvre ne dépendent pas entièrement de nous. Et cela doit nous aider à travailler dans un esprit de repos, sans tension, sans nous laisser écraser par les fardeaux et les situations, en nous reposant sur celui qui travaille en nous et par nous. J'ai l'impression que parfois, nous travaillons pour le Seigneur dans notre vie quotidienne, comme si nous étions le géant Atlas portant la terre sur ses épaules. Tout dépend de nous. Et si par malheur nous avons une défaillance, tout va s'écrouler sur le plan spirituel. Ce n'est pas vrai. Heureusement que Dieu poursuit ses plans. Ésaïe 26, 12. Nous avons lu tout à l'heure le verset 3, je crois. Dans le même chapitre, Ésaïe 26, il est dit, l'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est son œuvre et non la mienne. C'est son œuvre et non la mienne. Alors je peux me reposer. Parce que c'est son œuvre à lui. Enfin, troisième point important, nous avons posé premièrement la question, comment réagissons-nous dans la défaite et l'échec? Deuxièmement, ne surévaluons pas nos échecs. Troisièmement, est-ce que nous acceptons l'aspect correctif de nos échecs. Nous avons lu, je crois, hier soir, Hébreux 12, verset 5. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Ne te décourage pas lorsque Dieu te reprend. Je dirais que ce qui est troublant dans 1 Roi au chapitre 19, c'est que Élie semble n'avoir vu que le venin de l'échec, que le mauvais côté de la situation, le souffle fétide du diable victorieux. Là où Dieu voulait en quelque sorte lui dire, par le biais de la lettre de Jézabel, Élie, ne t'attribue pas de gloire. Tout est grâce, même ta victoire sur le Carmel. Élie, cette lettre, et Jézabel qui est derrière, c'est le moyen que j'ai choisi pour te maintenir dans ma dépendance. En quelque sorte, Élie aurait pu accueillir cette lettre de Jézabel comme un acte d'amour de la part de Dieu, là où il ne voyait que le venin de la puissance des ténèbres. Il aurait pu dire, mais je te bénis Seigneur, parce que là où je suis tenté de m'enorgueillir et de chuter, tu places sur ma route une Jézabel pour me rappeler ma fragilité et ma nécessité plus que jamais de regarder à toi. Je pense à Edison, ce grand inventeur qui, après bien des années de patiente recherche, a mis au point la lampe à incandescence. Et quelqu'un lui faisait remarquer ses innombrables échecs en rapport avec la réussite finale. Et Edison a répondu, des échecs ? J'en ai eu aucun. Car je connais maintenant les 10 000 raisons pour lesquelles une lampe à incandescence ne fonctionne pas. Il avait su tourner ses échecs à la gloire de Dieu. Alors, soyons prudents. Appelons échec, échec, et péché, péché. Vous savez que certains, hélas, refusent de se repentir de leur péché, précisément, parce que Dieu est capable d'utiliser même les catastrophes de nos vies pour nous apprendre quelque chose et se glorifier. Mais cela ne veut pas dire que pour autant, le mal devient bien dans son essence. Nous devons toujours nous repentir du mal. Ça, c'est le drame encore de ces courants déviationnistes qui courent dans l'Église de Jésus-Christ. Alors disons, oui, échec, mais Seigneur, je te bénis maintenant. Parce que je vais compter, au lieu de m'apesantir sur mes échecs et mon péché, tu m'as pardonné, tu as lavé, je reprends la course, mais maintenant je vais prendre une feuille et je vais noter sur cette feuille tout ce que j'ai appris. Et puis alors avec les années, on se rend compte combien Dieu utilise même pour en aider d'autres ces situations difficiles par lesquelles nous sommes passés. Je pense à cet ingénieur israélien qui a remarqué près d'un robinet qui fuyait, un robinet qui fuit, hein, c'est pas mal ça, tout simple, on connaît ça dans les écoles, un arbre qui était manifestement plus grand et plus vigoureux que ses voisins situés plus loin de la fuite. Et cet ingénieur savait que les méthodes classiques d'arrosage gaspillent la plus grande partie de l'eau distribuée. Et c'est cette fuite du robinet qui lui fit concevoir un système d'arrosage des plantes par petites doses, littéralement au goutte à goutte. Et vous savez que cette technique d'irrigation, nous l'avons encore vue et prise en diapo l'an dernier en Israël. Vous voyez partout des serpents qui se baladent, mais ils sont en plastique avec des petits trous et vous avez un goutte à goutte extraordinaire qui permet de doser la quantité d'eau donnée en fonction du lieu et du type de plante et du type de sol. C'est extraordinaire. Et c'est né comment ? À partir d'une fuite de robinet. Alors, mes amis, la prochaine fois qu'il y aura une fuite, regardez bien avant d'arrêter le système, hein, pour voir s'il n'y a pas une bonne leçon à tirer. J'ai ici encore un autre exemple tiré d'un livre remarquable du docteur Ida Scudder, qui a été une femme de Dieu extraordinaire qui a vécu de 1870 à 1961 et qui a travaillé, donc qui était indienne des Indes et qui dirigeait un hôpital, le docteur Paul Brand, le spécialiste de la chirurgie de la main lépreuse, a beaucoup travaillé dans cet hôpital. On en a quelques livres en français maintenant. Et Ida Scudder, cette femme de Dieu, disait ceci. Le succès que j'ai dans ma vie, je le dois à mes échecs. Oui, je le crois, tel que je le dis. Nous apprenons peu de choses par le succès. Le succès alimente le moi, l'insuccès le châtie. Celui qui n'a pas du succès baisse les yeux et veille sur ses pas. Ceux qui sont capables de continuer à apprendre lorsqu'ils ont essuyé un échec, qui essayent encore une fois, retombent à nouveau, se lèvent et poursuivent leur chemin, qui recommencent, sont vaincus et continuent pourtant, ce sont eux qui finalement remportent la victoire. Ceci devrait non pas nous encourager à vivre dans l'échec, mais à mieux assumer nos échecs. Ah, si le diable peut maintenir notre nez dans la poussière le plus longtemps possible, il aura gagné dans ce domaine. Faut-il dire qu'il importe de ne pas surévaluer nos victoires non plus? Parce que c'est le cas dans 1 Roi 19. Ne surévaluons pas nos victoires. J'aime à dire à l'adresse des missionnaires notamment, dans ta prochaine circulaire de nouvelles, ne surévalue pas tes victoires d'hier et d'aujourd'hui. Sois prudent. Sois prudent. N'appelle pas régénération ce qui n'est que décision. N'appelle pas délivrance extraordinaire ce qui est peut-être soulagement passager. Laisse le temps prouver l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu travaille avec le temps, il vit en dehors du temps. Dans la Bible annotée, il est dit au sujet d'Élie, Élie s'était senti fort en Dieu. Il va faire l'expérience de sa propre faiblesse. Dieu a travaillé par lui, il va maintenant travailler en lui. Souvenons-nous que sur la terre, nous sommes des apprentis préparant un CAP pour le ciel. Au ciel, nous travaillerons parfaitement, et je crois que nous travaillerons au ciel. Mais nous serons heureux de travailler, parce qu'il n'y aura plus au terme travail une connotation de peine, de labeur, de labour, de souffrance. Nous travaillerons dans la joie. Et je suis persuadé que Dieu nous réserve pour l'éternité, un de ses plans de travail. Il doit avoir de ses dossiers là-haut, pour l'avenir. Ça doit être fantastique, fantastique. Je me demande bien ce qu'on va faire, mais croyez-moi, on ne jouera pas que de la harpe là-haut. On fera bien d'autres choses que de chanter des cantiques. Je crois qu'on chantera des cantiques en travaillant. On pourra faire un tas de choses en même temps. Ça ne posera plus de problème dans notre vie. Quatrième remarque, nous devons nous refuser à vivre de comparaison avec les autres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ce qu'il importe, c'est que je sois moi-même. Et que j'accepte mes possibilités comme mes limitations. Et je me rends compte que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y en a qui voudraient que je sois comme eux. Il y en a qui voudraient absolument que je leur ressemble. Ou il y en a qui voudraient que je ressemble à quelqu'un d'autre, pas à eux forcément, mais à quelqu'un d'autre encore. Vous connaissez ce texte de Romains 12, verset 3, je vous le donne dans la transcription de Kuhn. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Je ne dois pas me surestimer et je ne dois pas me sous-estimer. Je suis ce que Dieu fait de moi et je me réjouis d'être à la place où il me veut. Ce qui importe, et je le dis dans le cadre de ce problème du découragement, c'est que nous occupions une responsabilité, une fonction qui soit à la mesure de notre compétence. Le découragement est parfois directement lié au fait que par surestimation, nous avons accepté de prendre des responsabilités qui étaient au-delà de notre envergure personnelle. Et de la même manière, le découragement dans nos vies est parfois lié au fait que nous nous sommes sous-estimés et que nous vivons en deçà des possibilités de service qui nous permettraient d'être pleinement épanouis en fonctionnant au maximum des capacités que Dieu nous a données. Nous pouvons être mal dans notre peau en nous, surestimant, et nous sommes alors écrasés par nos responsabilités. Vous savez qu'une quantité de dépressions en dehors de Christ sont liées au fait que des gens construisent une maison dans des conditions extrêmement difficiles, se dépassent physiquement, nerveusement, financièrement, et puis craquent une fois que la maison est achevée. Parce qu'en réalité, ils ont surestimé leurs capacités, leurs possibilités dans tous ces domaines, et ils sont allés au-delà de leurs mesures. Vous savez certainement qu'une quantité de dépressions sont liées au fait que dans telle entreprise, tel homme, telle femme accepte une mutation ou une responsabilité à l'échelon supérieur pour laquelle il n'est pas fait. Et ensuite, il perd les pédales, il commence à souffrir de toutes sortes de complexes, de nœuds. Il se rend compte qu'il ne devrait pas être à cette place et il sombre peu à peu dans le découragement et dans la dépression. J'aime ce psaume 131, versets 1 à 3. Psaume 131, versets 1 à 3. C'est David qui dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Est-ce que nous pouvons dire ça? Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Ou inversement, est-ce que nous n'aurions pas à dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je vis en deçà de la vocation à laquelle tu m'as appelé. Je pourrais faire plus, mais je tourne au ralenti dans ton service et je suis mal dans ma peau. Il importe que nous réalisions que Dieu veut que nous soyons nous-mêmes à notre juste place. Je pense à la parabole des talents, je l'ai souvent dit dans Matthieu chapitre 25. Dans l'Église, il y a ceux qui n'ont reçu qu'un talent et qui sont jaloux parce qu'ils aimeraient en avoir reçu 2 ou 5 ou 10. Et c'est dommage. Tout simplement parce que vous savez à quoi correspondait un talent à l'époque de Jésus. Un talent, c'était l'équivalent de 6 000 deniers. Un denier, c'était ce que gagnait un ouvrier après une bonne journée de travail. Donc un talent, c'était l'équivalent de 6 000 jours de travail d'un ouvrier ayant bien travaillé sans un seul jour de congé, ce qui représentait 16 années de travail sans congé. Or, quand on sait qu'en Israël, le juif avait un régime de congé tellement supérieur à ce que nous offre notre législation actuelle, un juif en Israël avait, dans les années normales, 69 jours de congé. Et s'ajoutait à ces 69 jours encore la 7e année qui était une année sabbatique où il ne devait pas cultiver le sol et où Dieu avait promis d'intervenir directement. Et puis la 50e année qui s'ajoutait encore. C'est-à-dire que quand un homme avait atteint l'âge de 50 ans, on a compté qu'il pouvait calculer qu'il avait eu 8 ans de congé de la part de Dieu en Israël. Vous vous rendez compte? Alors ajoutez encore les congés là. Hein, mais il y a de quoi faire le tour de nuit, vous ne croyez pas?
Comme si Dieu avait voulu dire que quand on a reçu un talent, on est déjà éminemment riche, n'est-ce pas? Surtout si de surcroît, on est appelé à faire fructifier ce talent. Parce que ça veut dire après 32 ans, et ainsi de suite. Donc personne n'a le droit de se sentir frustré. Je pense à cette petite montre, très frustrée, mécontente, qui se trouvait dans la poche d'une dame. Elle enviait Big Ben. Vous savez, la grosse horloge de la tour du Parlement de Londres, là au bord de la Tamise. Et un jour que la montre et la dame traversaient le pont de Westminster, justement à cet endroit, la montre a d'autant plus crié et pleuré son amertume et elle a dit « Mais je voudrais bien être où se trouve Big Ben. Je pourrais alors être utile à de nombreuses personnes au lieu de ne l'être qu'à une seule. » Alors la femme s'est tournée vers la poche, elle l'a ouvert discrètement, elle a dit « Écoute, tu auras ta chance. » Et peu de temps plus tard, la montre fut hissée le long de la tour du Parlement par une fine cordelette. Quand elle arriva en haut, on la perdit complètement de vue. Son élévation était devenue son anéantissement. Que de découragements sont dus à une telle attitude dans nos vies. Ne nous complexons donc pas parce que les autres ont plus de résistance. Qu'ils ont peut-être moins besoin de sommeil, qu'ils ont peut-être de meilleures capacités intellectuelles. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Moi, j'ai besoin de mes 8 à 9 heures de sommeil. Et il me souvient du temps où j'étais stagiaire en Bretagne et je travaillais aux côtés d'un couple. Et l'épouse, elle se couchait avec 8 enfants. À 11 heures minuit, elle se levait à 5 heures du matin. Et moi qui avais 25 ans, dans la pleine force de l'âge, mais qui vivais entre mon lit, parce que j'étais gravement malade, et mon bureau, croyez-moi, Dieu m'a dit, mais tu sais, hein, toi tu t'appelles Maurice, elle s'appelle comme ça, je ne vous dis pas comment. Hein. Ne nous complexons pas en nous comparant aux autres. La jalousie, l'envie sapent notre morale, diminuent notre résistance et il y a des découragements qui sont liés à des problèmes d'envie, de jalousie, qui sont comme la carie des eaux, nous disent les Écritures, Proverbe 24, verset 30. Je bénis Dieu d'une chose, c'est que je suis unique aux yeux de Dieu. J'ai mon propre rôle à jouer. Je suis une créature unique aux yeux de Dieu. Certains sont des Simon-Pierre, les autres sont comme le coq qui a chanté pendant la nuit de son reniement. Béni soit Dieu pour ce coq, ce n'était qu'un coq. Pourtant, quel message ce coq a donné de la part de Dieu à Simon-Pierre. Alors n'essayons pas de vouloir tous être des Simon-Pierre, si Dieu nous donne d'être des coqs, soyons alors simplement, et c'est paradoxal, d'humbles coqs à son service. Je vous laisse en conclusion cette petite image, celle de la petite fleur jaune. Cette petite fleur jaune, dans un jardin magnifique, quelque part en Inde, une petite fleur jaune qui ne fleurit que le temps d'une saison avant de faner. Et un matin, tandis que quelqu'un visitait le jardin, les plantes étaient terriblement attristées et découragées. Il y avait le manguier qui disait « Ah, si je pouvais être comme le cocotier !» Pourquoi ? Mais parce que le cocotier est utile, non seulement par son fruit, mais aussi par les palmes, non seulement pour ses branches, mais aussi pour son tronc. Tout est utile dans le cocotier, mais moi c'est différent, seul mon fruit est utile. Ah, si j'étais un cocotier. Alors le cocotier répondit, oh que j'aimerais être un manguier. Nul n'exporte des noix de coco des ânes, mais on exporte des mangues. C'est une excellente source de devises. Que j'aimerais faire gagner des devises à mon pays. Il était moderne, hein. Et ainsi de suite, chaque plante louchant vers sa voisine avec la certitude qu'elle ne remplissait pas la fonction la meilleure. Alors, Le visiteur vit cette petite fleur jaune dans un coin, toute contente de fleurir. Hé, dit-il en se baissant, petite fleur jaune, pourquoi es-tu si heureuse ? Eh bien, j'ai regardé le grand cocotier et je me suis dit, il est beau, il est majestueux, que j'aimerais me dresser comme lui et souhaiter la bienvenue au vent venu de loin en lui disant « Bonjour, vous voilà en Inde !» Mais Dieu n'a pas voulu que cela pour moi, et Dieu est grand. S'il avait voulu que je sois un cocotier, il aurait pu le faire. Et puis j'ai regardé le manguier aux fruits appétissants, me disant « Que ce serait magnifique si je pouvais te donner tel mangue !» Et puis je pensais « Si Dieu avait voulu que je sois un manguier, il aurait pu me faire manguier, parce que mon Dieu est Dieu, et rien moins que cela. Mais il n'a pas voulu que je sois un manguier. » C'est pourquoi il a fait de moi une fleur, une petite fleur jaune. Et la petite fleur s'écria joyeusement, « Si c'est ce que Dieu a voulu pour moi, je veux être la plus belle petite fleur jaune possible. » Voilà qui nous garderait de nos découragements. Être dans l'église de Jésus-Christ, mais la plus belle petite fleur jaune possible. Que Dieu veuille bénir le message de sa parole et nous donner aux uns et aux autres une juste attitude face à nos échecs comme face à nos victoires, afin que nous ne vivions pas dans le défaitisme et dans le découragement permanent. Alors c'est dans un prochain week-end que nous évoquerons les quatre autres dimensions, les quatre autres causes du découragement et leur remède. Seigneur, merci. Merci pour un roi 19, pour ces chapitres de l'Ancien Testament qui pourraient être histoire banale, chronique d'un peuple, couverte de poussière, simple information destinée à chatouiller notre curiosité et à gonfler notre tête. Non, Seigneur, un grand merci de ce que tu as écrit ces choses pour notre instruction, afin que nous en tirions des leçons à la lumière de tout le reste de ta parole, pour connaître plus de stabilité, un témoignage plus épanoui, et pour réaliser en même temps comment est notre cœur. Merci Seigneur, parce que nous avons pu lire notre cœur naturel en voyant et en entendant Élie. Nous reconnaissons que ta parole est un miroir et non pas un miroir déformant, mais un miroir qui nous renvoie vraiment notre image telle qu'elle, sans retouche. Mais merci aussi de ce que tu nous donnes toujours les remèdes, les solutions, et non pas des solutions de replâtrage, d'amélioration de façade, de ravalement, mais des solutions qui vont en profondeur, parce qu'elles émanent du sacrifice de la croix, de ta vie de résurrection. Nous te bénissons, Seigneur, parce que quand toi, tu construis nos vies, tu les construis pour l'éternité. Merci, merci Seigneur, pour la beauté de ta parole et pour tout ce que nous pouvons y apprendre. Donne-nous de la serrer dans notre cœur et crée en nous cette soif irrésistible de la vivre pour notre bonheur, pour ton bonheur de Père, pour le salut d'un grand nombre et pour l'avancement de ton Église. C'est dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, ô Père, que nous te prions cela. Amen.